Mais les collectifs, ils se situent surtout par une pratique politique. Je veux dire, c'est d'abord une expertise par rapport au monde tel qu'il existe, par rapport à ce qui s'y passe, les logiques de domination, d'exploitation. Et par rapport à cette expertise qui est de l'ordre du théorique de l'intellectuel, c'est aussi de dire parallèlement à ça et en même temps, parce que ça fait partie d'un tout, c'est de poser des pratiques qui feront que le débat politique, bon, qui s'encrasse quand même à un niveau démocratique, puisse être dépassé, qu'on puisse poser d'autres questions. Ces pratiques, ben, c'est les occupations, c'est poser des actes de résistance qui feront que les gens puissent se mettre à réfléchir, à poser les questions et à repérer les faits qui permettent de poser ces questions, plutôt que de s'enliser dans un débat où finalement chacun se déresponsabilise en disant la politique ça nous intéresse pas, la politique c'est toujours les mêmes, la politique ben il y en a qui sont payés pour qu'ils le fassent. Nous c'est de dire que c'est à chacun d'intervenir et que le politique il concerne tout le monde, quoi.
On peut dire que c'est une logique de rupture non violente dans la contestation.
Oui, c'est clairement une logique de rupture. Ici, les collectifs font le choix de pratiques non violentes, parce que mais bon, ça fait partie hein, d'un débat sur violence, non-violence. Bon, je pense qu'on peut essayer d'éviter la spirale de la violence et poser les débats autrement. Donc, je pense qu'il y a moyen, effectivement, d'avoir des pratiques qui permettent d'arriver à des objectifs sans utiliser cette violence. Mais je pense qu'elle fait aussi partie d'un autre débat que celui d'aujourd'hui. C'est plutôt le débat du choix, violence, non-violence. Je pense aussi que ça dépend des situations. Bon, clairement, on n'est pas dans un système de dictature ou dans un système totalitaire tel que le nazisme, où on n'est pas en Amérique latine, où le choix des armes, quelque part, ne s'impose pas, enfin, n'est pas un choix. Je crois qu'il s'impose parce qu'on est dans un autre cadre. Ici, on est quand même en Europe du Nord, dans ce qui se dit démocratie, en tous les cas, dans une démocratie indirecte. Donc, je crois qu'on peut faire. Mais. Bon, la lutte peut s'inscrire aussi dans la violence. Moi, je dis qu'ici, les collectifs, clairement, s'inscrivent dans une démarche non violente, ce qui est toujours assez marrant d'ailleurs, parce qu'on s'y inscrit, on le défend, mais toujours le débat reste là, posé, enfin, chaque ligne des procès-verbaux qui peuvent concerner une action des collectifs ou dans la désinformation de la gendarmerie, à chaque ligne revient toujours le mot violence, violence. Bon, on peut le voir dans les préventions. Dans le cas de mon affaire, les préventions qui sont retenues, c'est tout le temps violence, violence.
Oui, justement, donc à cette manifestation à Steenhuizen, c'est pour celle-là que vous avez été condamné à un an de prison ferme alors qu'il n'y avait pas eu arrestation sur le moment. On a dit vol avec violence, on a parlé effectivement de violence. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là dans votre chef, disons?
Mais ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe généralement dans le cadre d'une manifestation. C'est quelques grilles secouées, c'est une altercation avec un photographe qui prenait des photos des manifestants. Et je veux dire, il s'est rien passé de bien particulier dans le cadre de la manifestation. C'est la gendarmerie qui charge avec ses autopompes pour disperser une manifestation. Donc, je veux dire, c'est toujours assez surprenant comme ça, après coup, que ça vous tombe dessus, quoi.
Oui, donc il s'est rien passé à la manifestation elle-même par rapport à vous. Pendant plus d'un an, il s'est rien passé ou à peu près dans les contacts administratifs. Il y a eu un contact apparemment. Et puis tout à coup, la police déboule à votre porte et vous arrête.
C'est-à-dire, oui, donc dans le cas de cette affaire-là en particulier, il y a plus ou moins 2 mois, il y a eu un mandat d'amener. Je me suis retrouvé devant un substitut du procureur du roi, et donc il m'a fait part des préventions à ma charge. Là aussi, c'était déjà de comprendre de quoi on parlait, parce que je tombais un peu de haut, et puis de réaliser que, enfin, je veux dire, de rien du tout, on avait monté le dossier en épingle, on faisait un dossier à charge quand même qui est quand même pas piqué des vers, quoi. Mais bon, ça c'est aussi une vieille technique policière répressive de la gendarmerie, c'est de monter des dossiers à charge, et puis on cherche, et puis on verra bien ce qu'il en sort, quoi.
Et donc le 26 janvier, Dernière condamnation par défaut à 1 an de prison ferme. Quelques jours plus tard, on vous cueille chez vous. Quelle a été la suite?
Mais la suite, c'est la police qui vient chez moi et bon, qui dit on voudrait vous entendre dans le cadre de on ne sait pas quoi parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Bon, c'est moi qui les suis et puis c'est au poste de police et on vous sort. Voilà, c'est une ordonnance de capture. Donc c'est le coup de massue évidemment parce que c'est une ordonnance de capture, mais on vous dit c'est 1 an de prison ferme avec arrestation immédiate. Donc, on peut imaginer ce que quelqu'un peut ressentir comme ça tout d'un coup. Oui, c'est clair, puisque rien ne le prévoit. Je ne sais pas qu'il y a de procès. Je n'ai pas reçu les attendus. Je ne sais rien. Donc, bah oui, intérieurement, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Enfin, je crois que maintenant, c'est clairement établi que bon, si je suis en résistance, c'est-à-dire comment par rapport à ce qui vous arrive là tout d'un coup? Comment je vais continuer à résister? Il ne s'agit pas non plus de s'effondrer et dire excusez-moi, pardonnez-moi, je ne le ferai plus, et puis de rentrer chez soi. De toute façon, y a pas, on ne sait pas faire marche arrière. Donc voilà, c'est ça. Et puis de poser, parce qu'il y a aussi, il faut quand même le dire, il y a aussi la rage. Ça peut aussi se transformer en violence. Donc il y a justement ces pratiques de non-violence, de dire on résiste, mais bon. Faisons ça de façon responsable et tout. Enfin, le mot, j'aime pas trop le mot, mais ce sera moins clair. Et dire, c'est voilà, comment on fait? Ben voilà. Après, on entre en résistance, on dit qu'on n'est pas d'accord. Et puis, ben, c'est souvent comme ça dans ces cas-là. C'est quand on refuse de collaborer, quand on résiste, c'est des coups qui pleuvent, c'est des politesses qui directement. Le masque tombe et c'est fini. Les monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je m'excuse. Et c'est. Arrête, tu fais chier et on vous saute à la gorge et on vous tape dessus, quoi.
Donc oui, votre logique de résistance non violente a suscité chez vos hôtes des violences répétées. Ça a commencé au commissariat, ça a continué au mitard. Est-ce que vous pouvez décrire en 2 mots quel a été le parcours de ces violences et quelle a été votre réaction par rapport à ça?
Bon, il faut situer évidemment le cadre, quoi. Pourquoi la violence? Bon, c'est clair que la violence, elle va s'exprimer en cas de conflit. S'il n'y a pas conflit, il n'y aura pas spécialement usage de la violence. Ici, clairement, il y a un conflit. Moi, je suis en conflit face à un système répressif, face à des autorités. C'est la police, ça va être le système pénitentiaire. Par rapport à ça, vous avez deux possibilités. Je veux dire, quand quelqu'un comme moi dit non, s'appuie contre le mur et croise les bras en disant non, vous avez 36 solutions. Hein. Dans les règlements de la prison, par exemple, il est spécifique, la contrainte doit toujours être proportionnelle à l'attaque. Donc il faut aussi imaginer le cas. Il n'y a jamais, de ma part ou de mon chef, de violence ou de risque de danger par rapport aux gardiens ou par rapport à la police. Donc, et par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben voilà. Je crois que, enfin, si violence il devait avoir, mais elle devient évidemment quelque chose d'intellectuel, c'est ce qui va les choquer, ce qui va les faire qu'ils se sentent agressés, c'est évidemment le non sans concession que j'aimais, qui est de dire non, je ne collabore pas, mais ça ne justifiera jamais en rien, de toute façon, les violences, quoi. Et voilà, ben, à chaque occasion où j'ai dit non, parce que bon, enfin, ça a commencé dès l'entrée en prison, c'était quand vous devez vous déshabiller, vous mettre nu, où on va briser en vous toute volonté et on va casser votre dignité. Bon, c'est un non catégorique par rapport à ça, j'entrerai pas dans ce jeu-là, donc si vous voulez me casser, il faudra vous y prendre autrement. Bon, je crois qu'il y a d'autres techniques, mais là, c'est la violence qui s'abat, quoi, qui continue, puisque j'en les avais déjà subies au poste de police, et puis ça va être à différentes occasions. Et la violence, elle est là, c'est la violence aussi du mitard, donc c'est ce qu'ils appellent une cellule de réflexion, c'est une pièce où vous avez trois morceaux de mousse qui vont vous servir de matelas, de couverture, et où il fait entre 5 et 10 degrés. J'avais pas de thermomètre, donc je peux pas le dire, mais. Et voilà, et là-dedans, il y a rien d'autre. Vous êtes seul, votre seule protection par rapport déjà aux violences que vous avez subies, par rapport aussi à la peur des violences que vous allez encore subir, parce que vous êtes quand même seul, perdu au milieu d'un système, vous savez, qui peut vous broyer, même Si vous avez la force de dire je résiste, bon, faut quand même. On est quand même lucide. Donc votre seule protection, c'est de vous mettre en dessous des deux couvertures qu'on a bien voulu vous laisser. Et voilà, c'est ça, c'est la seule protection. Bon, et voilà, il y a eu ces différentes occasions, puis jusqu'au passage à tabac dans les règles, où là, on sort même du cadre, de la conflictualité, du rapport de force entre moi et eux, qui sont les représentants du système, et là, où on vous passe à tabac pour vous faire payer, pour vous casser. Ce qu'il faut aussi dire, bon, moi, j'ai pu en parler parce que j'étais pas seul, donc à l'extérieur aussi, ils ont pu en parler. Moi, je pense toujours à tous ceux qui le subissent et qui peuvent pas en parler. Enfin, dans les prisons, il y a plein de sans-papiers qui sont des gens qui n'ont aucun contact et qui peuvent aussi subir toutes ces violences. Donc, il y a même des détenus, je crois que c'est parce que. Bon, je dis toujours un peu l'image que j'ai eue comme ça un peu après en faisant des analyses. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais comme un chien qui déboule dans un jeu de quilles. J'étais là avec mes pratiques politiques, mes pratiques de revendication, parce que bon, mon refus, ma résistance, il était de dire mon incarcération, je ne suis pas d'accord, c'est de la répression, et de dire j'arrive là, je dis non, je ne suis pas d'accord, avec une revendication qui dit libération immédiate de Pascal, quand tout le monde l'a crié au procès. Bon, et là, voilà, et eux, ils ont leur technique et leur pratique courante, qui c'est de la violence quand quelqu'un résiste et veut pas se soumettre. Et puis voilà, ça a été la confrontation des deux. Donc je suis aussi le témoin de ce qui se passe dans les prisons, ce qui pour moi aussi d'ailleurs en fait de nouveau un peu quelque part un nouveau sujet de lutte et de combat. Parce que bon, je pense pas que j'avais besoin de nouveaux sujets, mais c'est clair qu'on découvre, même si on le sait intellectuellement avant, que la prison, c'est clairement, enfin, comme les centres fermés, c'est le vieux principe de l'enfermement, de toute façon. C'est le principe de la terre de non-droit, quoi. Le détenu à l'intérieur de la prison n'a clairement aucun droit et dès qu'il essaiera d'une façon ou d'une autre, pas toujours de façon consciente et politisée comme moi, mais simplement humainement exprimer ce désir d'exister. Au milieu du système de l'univers carcéral, ben, ce sera la réponse de la violence. Et des degrés de violence, il y en a plusieurs, parce qu'il y a, c'est sûr, il y a les coups, mais je dirais, il y a 36 autres pratiques, c'est les vexations, c'est, enfin, on pourra en parler plus longuement, je sais pas si c'est vraiment le propos.
Si dans la pratique, les détenus n'ont pas de droit, en théorie, ils en ont quand même. Sur vous, les violences ont été constatées médicalement. Il n'y a pas eu que ça comme infraction à vos droits. Il y a aussi eu le fait que vous n'avez pas eu rapidement accès à votre avocat, à votre médecin, à un médecin, etc., etc. Toutes ces choses-là sont établies et constatées. Est-ce que vous pensez que ça aurait une utilité de porter plainte par rapport à tout ça?
L'utilité, moi, il reste d'abord le débat, c'est clairement, on l'aura compris, le système judiciaire, j'y crois pas. Donc je pense, enfin, moi, je pense que ce que je peux faire, là où je peux agir, il est ailleurs. Je pense d'ailleurs que je l'ai fait, que j'ai agi, moi et le collectif, dans le fait de dénoncer, c'est là que j'ai ma place. Ma place, je l'ai aussi dans le fait que je peux témoigner, que j'ai envie de témoigner et pas laisser tomber, j'ai envie que. Ce que j'ai vécu serve à quelque chose, et puis qu'on puisse dénoncer les violences. Non, reste un problème de savoir ce qu'on peut encore faire d'autre.
Vous avez été libéré sur une question de forme, c'est-à-dire qu'on vous a libéré, mais la chose n'est pas jugée pour autant. C'est le 4 mai que votre cas sera rejugé sur le fond, puisque vous avez fait opposition. Le dossier est vide, mais est-ce que vous appréhendez malgré tout ce nouveau contact avec la justice?
Ben après Mandé, on n'est quand même pas des super-hommes. Il reste après Mandé, oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passera. Et puis, bon, le jugement, la peine, elle peut quand même tomber. Même si elle est avec sursis, je veux dire, demain, il peut y avoir d'autres procès. Donc, c'est clair que ça fait toujours un peu peur. Mais pour moi, la peur n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est apprendre à la dominer. Mais moi, je pense par rapport à ce procès, clairement, ils ont voulu un procès. Moi, je dis que ce sera un procès politique. Si j'étais pas prêt la première fois, parce que par les circonstances, je ne savais pas qu'il avait lieu, c'est clair que cette fois-ci, je serai prêt. Et le jeu sera d'un côté un système judiciaire qui va dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est les faits, c'est les infractions et c'est la peine qu'on peut vous mettre et où nous, on dira, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fond et c'est pourquoi on essaie de criminaliser des mouvements sociaux. C'est ce qu'on essaie de criminaliser, c'est des gens qui résistent, c'est des gens qui disent des choses. Le procès politique, il sera à 36 niveaux, il sera de façon générale. Sera le procès un peu de l'État sur ce qui sera politique. Je veux dire, dans quelle mesure un système, l'État, un système peut encore accepter d'être contesté. De moins en moins, il accepte. Est-ce que c'est normal? Je crois que c'est aussi, sera le procès de pratiques. C'est les pratiques que nous on défend et de savoir aussi est-ce qu'elles sont justes. Et un débat aussi pour tous les gens de savoir, oui, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir leurs pratiques dans le sens où ce sont des pratiques politiques et qu'elles sont normales dans ce cadre-là, enfin en tous les cas, dans un pays qui se dit démocratique. Ce sera le procès aussi des centres fermés pour moi, parce qu'on perd un peu de vue, mais bon, si j'étais là devant ces centres, c'était pour dénoncer ce jour-là les expulsions collectives de Tziganes, enfin, avec tout ce que ça peut signifier, c'était aussi de dénoncer les cendres, je veux dire. On dit depuis toujours, même la politique politicienne dit que les centres fermés sont inacceptables. Il y a quand même eu un rapport du Sénat il y a un peu plus d'un an qui le disait de façon claire, mais on dit les choses, mais jamais on ne bouge. C'est un peu ça, les collectifs, c'est de dire. Par rapport à un constat, une expertise que tout le monde peut faire, moins s'il en a l'envie, c'est de dire, bon, et alors qu'est-ce qu'on fait de cette expertise? Et c'est là qu'on passe toujours, à l'acte. Moi, je veux dire, ces centres fermés, ils doivent fermer, clairement. Et tant qu'ils ne seront pas fermés, ben, on se battra.
On vous donne finalement l'occasion d'un procès de la politique gouvernementale et des pratiques de l'État sur un dossier qui, selon tous les observateurs, est à peu près vide. Vraiment, il y a très peu de choses dans ce dossier. Est-ce que finalement, c'est pas un peu une aubaine pour les collectifs? Est-ce qu'on peut considérer ça éventuellement comme une grosse gaffe de la part du système judiciaire d'attaquer sur des choses aussi critiquables quelqu'un qui finalement n'a rien fait, quoi? Est-ce que c'est pas. On a vu d'ailleurs aussi la mobilisation que ça avait suscité, qui a clairement montré on ne laissera pas passer. Est-ce que dans une optique de l'état de criminalisation des mouvements sociaux, ils n'ont pas fait une grosse bourde finalement?
En termes de dossier, c'est clair que le dossier répressif, il est clairement vide. Enfin, je veux dire, la seule preuve matérielle des violences que j'aurais pu commettre à l'égard d'un policier, c'est une facture de pressing de 450 francs pour le nettoyage de son impaire. Donc, je veux dire, ça prouve. Moi, je pense aussi qu'il faut remettre ça. D'abord, il faut pas. Oui, le dossier est vide, mais il faut jamais trop s'enorgueillir, en rigoler. Et moi, j'ai pour principe, parce que pour moi, l'ennemi, il est en face de moi, donc c'est bien la gendarmerie, c'est bien l'État. Il faut jamais sous-estimer l'ennemi. Il a fait une bourde, c'est pas pour ça qu'on en sortira, qu'on gagnera. On a gagné juste une petite escarmouche, on n'a pas gagné la guerre, donc il faut rester très prudent. Mais non, c'est clair, moi je pense qu'ils ont. Moi l'analyse que j'en fais, c'est qu'ils ont essayé de tester effectivement cette capacité de mobilisation, de résistance. Ils ont vu ce que ça donnait. C'est clair qu'elle a été hyper, hyper forte. Enfin, on pourra toujours en faire des analyses après encore. Mais aussi par rapport à ça, ils seront aussi en capacité de réagir et de se positionner différemment. Bon, c'est clair qu'ils m'ont attaqué avec un dossier vide. Peut-être qu'ils se sont dit, oh, de toute façon, ça posera pas de problème, ça passera comme le fil dans le chat de l'aiguille. Et puis bon, oui, clairement, il faut dire aussi que déjà, il y a eu toute la mise en scène du vendredi dans la salle du Conseil de guerre. Il faut dire quand même clairement que, parce que la justice est telle que, de toute façon, les décisions ne se prennent pas à la cour, mais elles se prennent ailleurs. Clairement, jeudi, je savais déjà qu'on accepterait la forme et donc que je serais libéré.
Pour en revenir à la manif, vous étiez nombreux à manifester devant le centre. Vous n'êtes pas le seul à avoir touché quoi que ce soit, enfin les grilles ou contester, enfin avoir été en opposition avec les forces de l'ordre. Pourquoi c'est vous qu'on a sorti comme ça du tas et qu'on a condamné alors qu'il y avait plein d'autres gens qui faisaient finalement des choses très similaires. Vous pensez que c'est qu'on a tapé au hasard ou qu'il y avait des raisons bien précises?
Bonne question. À mon avis, il faudrait peut-être la poser à la gendarmerie. Je sais pas si c'est une question qui m'est posée. Je sais pas si je t'ai visé personnellement. Moi, de toute façon, je pense pas que c'est grand et important. Moi, je pense ce qui est sûr, c'est que j'ai été pris comme bouc émissaire. Là, encore une fois, c'est une technique habituelle. On va en prendre. Enfin, ici, c'était un, mais parfois c'est deux, trois. Je veux dire, sur un ensemble, c'est clairement un mouvement social, un mouvement collectif. Et puis là, on va toujours prendre une ou deux têtes de pipe, et puis on va essayer de les descendre. C'est ce qui s'est passé avec moi, je crois. Voilà, j'étais en mesure de pouvoir un peu résister, mais c'est clair. De toute façon, seul, j'aurais rien fait. Que si les gens dehors avaient pas été là, s'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation, comment ça aurait pu se passer? Je sais pas. Moi, je pense qu'on peut faire de l'analyse, que c'est effectivement tout un mouvement qui se dresse et qui dit stop, il n'en est pas question. Là, vous allez trop loin, effectivement. Rien, tout n'était sûrement pas calculé. Je veux dire, il y a une situation avec chacun, moi, eux, chacun réagit à sa façon par rapport à cette situation qui a fait que, bon, il y a eu les violences, il y a eu les coups, il y a eu ce dossier vide, il y a eu effectivement comme, moi je dirais presque comme un ras-le-bol ou comme l'explosion, et du mouvement, mais je crois que ça a été même plus loin. Enfin, j'aime pas trop le terme citoyenneté parce que ça fait un peu tout dire et n'importe quoi et on le galvaude un peu, mais c'est vrai, moi de ce que j'ai parlé avec des gens, ça allait plus loin que ce que j'appellerais un mouvement social, un mouvement politique qui est capable d'expertiser, ou c'est vraiment des gens qui disent non, là, il y en a marre, c'est n'importe quoi. Et je crois aussi qu'il est l'expression d'une analyse qui se fait déjà depuis un moment, parce que ça fait quand même plusieurs mois que nous, au sein des collectifs, on réfléchit à cette criminalisation. Je veux dire, on en parle de plus en plus, mais nous, au sein des collectifs, mais je pense même en termes, ce qui concerne les parents d'enfants disparus, en ce qui concerne, par exemple, le procès des Forges des Clabecs et plein d'autres gens, il y a clairement, on sent cette volonté de criminaliser, de casser ce mouvement social. Bon, il y a l'anti-mondialisation, on voit comment ça se passe à tous les sommets, c'est l'état de siège permanent, c'est criminaliser, mais c'est aussi empêcher, c'est aussi quelque part empêcher l'expression, quoi, l'expertise, et donc qui repose cette question de savoir qu'est-ce que c'est ce système qui empêche qu'on puisse encore exprimer. C'est un peu ça tout ce qui s'est passé vendredi, je crois. Parce que la mobilisation, bon, elle est quand même assez surprenante. Et c'est, oui, je crois que tout à fait que ça a été possible. Moi, bon, c'est vrai que c'est la joie et le soulagement d'être sorti. C'est la joie d'avoir vu que qu'il y avait quand même du répondant, qu'il y avait de la résistance. Les gens se posaient des questions. Il n'était pas prêt à laisser faire, mais non, c'est aussi tout le danger de faire bon, c'était quelque chose de très émotionnel, parce que bon, il y avait les coups, il y avait la grève de la faim, donc il y a tout ce rapport un peu à l'émotion, et il faut aussi dépasser ça et faire en sorte que ce mouvement de résistance qui s'est exprimé à travers moi, par les circonstances, se mettre vraiment en place et qu'on puisse. Moi, ce que j'ai envie aussi, c'est que ça se construise, parce que sinon, on s'essoufflera très vite. Mais le système de la répression, c'est quelque chose de, je veux dire, d'inhumain et qui a suffisamment de force et de moyens que pour continuer son petit bonhomme de chemin, de façon parfois bien plus discrète et bien plus sournoise qu'un procès un peu plus sensationnel qu'un autre. Et le travail de sape et de démolition, il continuera, et il va falloir résister, quoi. Sinon, dans un an ou deux, ben, on retrouvera des gens qui se disaient résistants, puis qui se retrouveront perdus dans un système carcéral, qui n'auront plus moyen de dire grand-chose, quoi. Et à ce moment-là, ils seront tout seuls et ils paieront le prix, quoi.